7h à Nouakchott, 20h à Tananarive, bienvenue à notre bulletin de nouvelles. On commence par la lutte contre le paludisme en Afrique. Après le Malawi et le Ghana en avril, le Kenya a lancé ce vendredi un test grandeur nature du vaccin expérimental le plus avancé contre cette maladie qui fait chaque année 435 000 morts dans le monde. C'était le chiffre en 2017, dont 93% en Afrique, principalement des enfants africains. Aboutissement de plus de 30 ans de travaux, la campagne lancée dans ces trois pays vise à confirmer l'efficacité du vaccin sur des enfants âgés de moins de 2 ans, les plus vulnérables au paludisme. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui coordonne ces programmes, espère vacciner 120 000 enfants dans chacun des trois États africains concernés d'ici à 2020. Le paludisme a fait plus de 10 000 morts en 2016 au Kenya, a souligné la ministre kenyane de la Santé, Cicely Kariuki. L'objectif de l'OMS est de réduire le nombre de personnes tuées par le paludisme de 90% en 2030 par rapport aux quelques 430 000 morts enregistrées en 2015. Crise anglophone au Cameroun, l'opposition réclame une amnistie générale parmi ses conditions pour participer au grand dialogue national convoqué par le président Paul Biya en vue de mettre fin au conflit dans les régions anglophones. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Le social-démocratique Front, partisan d'un retour au fédéralisme, a demandé au pouvoir de déclarer un cessez-le-feu dans les deux régions anglophones et de garantir une amnistie générale pour tous les acteurs de la crise anglophone. Nous avons parlé de notre vision du dialogue, à eux de réagir, à moins qu'ils ne veuillent un monologue, a déclaré Joshua Oshi, vice-président du SDF. Son parti demande aussi que le dialogue qui doit se tenir fin septembre soit présidé par une personnalité neutre et non par le Premier ministre comme annoncé par le président Biya. Le SDF voudrait que les discussions sur la forme de l'État soient un élément central du dialogue en vue de l'adoption d'une nouvelle constitution. Après avoir fait preuve d'intransigeance, le président Biya a convoqué mardi un grand dialogue national. Si quelques figures anglophones ont salué cette initiative, Julius Aluk Tabé, l'un des leaders séparatistes qui purge une peine de prison à perpétuité, a déclaré par son avocat que ce dialogue était un non-événement.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Afrique de l'Ouest, sommet de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, demain samedi à Ouagadougou, Burkina Faso. Une réunion à laquelle participeront également le Cameroun, le Tchad et la Mauritanie. Au programme, entre autres, des discussions sur le G5 Sahel. L'Alliance anti-djihadiste regroupe en 5 pays, Mali, Burkina Faso, Mauritanie, Tchad et Cameroun. Les États membres du G5 n'arrivent toujours pas à mettre sur le terrain les 5000 militaires de la force du G5 Sahel chargés de barrer la route aux djihadistes dans la bande sahélo-saharienne. Et puis au Mali, nouvelle promesse du gouvernement aujourd'hui pour mettre fin au mouvement de protestation dans plusieurs villes du pays par des habitants exaspérés par leurs conditions de vie et l'état des routes. Bamako s'est engagé ce vendredi matin à commencer dans 6 mois plus tard les travaux sur la route reliant Gao à Sévaré dans le centre du pays et à la capitale Bamako. Gao, la métropole du nord malien, et Tombouctou, également dans le nord, ont été deux des principaux foyers de la vague de mécontentement. Au Zimbabwe, les proches de l'ex-président Robert Mugabe ont finalement accepté que le père de l'indépendance du pays soit enterré au champ des héros. Un monument national de la capitale Harare, comme le souhaitait le gouvernement. Oui, je confirme, a déclaré aujourd'hui Léo Mugabe, un des neveux du leader défunt, après plusieurs jours de tension entre les autorités et la famille, qui préférait initialement que Robert Mugabe repose dans son village. Et toujours en Afrique australe, en Zambie, le président Edgar Lungu a affirmé ce vendredi sa détermination de faire adopter une réforme de la constitution du pays, malgré les critiques de l'opposition et de la société civile, qui dénoncent ce qu'ils appellent sa dérive autoritaire. Lors d'un discours devant le Parlement, M. Lungu a confirmé que le projet de loi déposé en ce sens par son gouvernement sera examiné pendant la session parlementaire entamée aujourd'hui. Le projet de loi renforce, entre autres, les pouvoirs du chef de l'État. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com.
Nanit Talani pour la Minute Éco.
Le Kenya prévoit des coupes brutales dans les dépenses, y compris pour les voyages à l'étranger des membres du gouvernement, afin de réduire le train de vie de l'État. Le ministère des Finances a affirmé que toutes les dépenses non essentielles seront réexaminées afin que le gouvernement puisse réaliser des économies et financer ses programmes sans dépendre de la dette et atteindre ainsi l'autosuffisance. Le Nigeria prévoit d'augmenter la TVA de 7% à 7,2% contre 5% auparavant pour accroître les revenus non pétroliers si le Parlement approuve le projet. L'augmentation de la TVA s'inscrit dans le cadre d'une initiative plus large visant la hausse des recettes fiscales dans un pays où il est difficile de collecter les impôts à cause de nombreuses petites entreprises qui ne sont pas enregistrées. Le Nigeria vise environ 24 milliards de dollars de taxes cette année contre 17 milliards de dollars l'an dernier. Terminons par l'Angola qui envisage d'installer 30 000 systèmes individuels de production d'énergie solaire et de construire une centrale solaire d'une capacité de 600 MW. Pour les autorités angolaises, l'énergie solaire est de plus en plus rentable et constitue une solution pour l'électrification car les systèmes individuels peuvent être installés dans les villages, dans un pays où plus de la moitié de la population n'a pas accès à l'électricité.
VOA Afrique avec la meilleure musique et des infos de la Voix de l'Amérique.
Fire.